Voilà, je vais vous donner le temps de trouver. Nous allons étudier un passage dans le livre de Néhémie. Alors pour ceux qui se demandent où ça peut se trouver, vous ouvrez votre Bible au milieu, ce sera Psaume, et vous allez vers l'avant, vous allez trouver Job, et ensuite Ruth, et puis Néhémie. Donc je vous laisse chercher, on va être dans Néhémie. Ce que nous allons voir ce matin, c'est de tirer quelques leçons de, justement de ce livre, de cette expérience, Néhémie. Donc, Néhémie, c'est dans le royaume des Mèdes et des Perses, et il se trouve à Suse. Et un peu pour ceux qui sont un peu historiens, qui aiment situer les choses, alors je vous rappelle que les enfants d'Israël, parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, étaient allés vers les idoles. Alors Dieu a permis que Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, vienne et soit victorieux. Il les prend en exil. Et en partant, il a démoli et le temple et les murailles. Il a laissé un tas de ruines à Jérusalem. Mais comme Dieu s'est servi de lui pour justement châtier le peuple parce qu'ils avaient été infidèles, mais aussi Nebuchadnezzar avait été très cruel, il avait profité de l'occasion, de la situation, et donc Dieu le jugera aussi. Et lui, donc, le royaume de Babylone chutera en 539 avant Jésus-Christ. Ésaïe l'avait annoncé, il a dit, bon, vous allez être emmené en exil pendant 70 ans, et au bout de 70 ans, je vous ramènerai. Dieu garde ses promesses. Et donc, c'est en l'an 515 que Esdras, donc Esdras, c'est juste avant Néhémie, hein, donc Esdras, un prêtre, vient et il se charge de la reconstruction du temple de Jérusalem, pas avec la grandeur de Salomon, mais il va reconstruire le temple, donc en 515 avant Jésus-Christ. Et après, il y aura encore des gens qui vont revenir de Babylone, en Israël, donc en 458. Et Néhémie se situe à peu près en 444 avant Jésus-Christ. Hein, donc 444 avant Jésus-Christ. Et aussi le livre de Néhémie a été certainement rédigé par Néhémie en 430 avant Jésus-Christ. Hein, donc voilà pour vous situer. Le roi David était à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, c'était un peu vers 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, voilà un peu pour vous situer comment les choses se passent. Alors, Néhémie revient et lui, son projet, c'est de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Donc, Ezra s'était occupé du temple. Il avait construit, ils avaient recommencé à célébrer le culte de l'Éternel à Jérusalem. Mais là, Néhémie, alors, vous êtes au chapitre 1 certainement, et je vais rapidement lire le début là. Donc, chapitre 1, verset 1, il dit « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, donc certainement à peu près en octobre-novembre, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les villes de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis. Et donc après nous avons sa prière. Mais dans sa prière il va confesser le péché. Il dit non Dieu tu as été juste. C'est nous qui avons été désobéissants. Nous sommes égarés de toi. Tu es tout à fait juste, mais tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, et tu nous permets de revenir. Et donc, ramène-nous, reconstruis cette ville. Et donc, il fait cette prière. Et donc, on arrive à la fin du verset 11. Hein, il dit, « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à ma prière, à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Donc l'échanson du roi, c'est celui qui, c'est le goûteur des boissons. Hein, c'est lui qui buvait le vin avant que le roi ne boive. Et donc il était là toujours prêt, c'est un homme de confiance. Et ça nous donne une idée de Néhémie, que le roi avait pleine confiance en lui. Et donc, le début du chapitre 4, nous arrivons au mois de Nisan, de la 20e année. Lorsque l'on regarde le calendrier babylonien, eh bien, c'est 4 mois plus tard. Hein, donc, Néhémie a prié pendant 4 mois. Il dit, et jeûné et prié, c'était un fardeau qu'il portait sur son cœur, au point que ça commence à paraître, ses heures de prière et sa tristesse paraissait sur son visage, parce que vous voyez au chapitre 2, verset 2, commence à lire au verset 1, au mois de Nisan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Vous imaginez les chansons, c'est celui qui goûte. Alors bien sûr, le roi, avant de prendre, il regarde voir s'il se porte bien. Hein, donc c'est quelque chose, le roi a l'habitude de le regarder de près, de bien le voir, parce que sa vie en dépendait. Et il a dit, et surtout, on ne paraît jamais triste devant le roi. Il a dit, voilà, c'est comme ça que les choses sont arrivées. Et le roi dit, pourquoi tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut qu'être qu'un chagrin de cœur. Imaginez la relation qui s'est développée entre le roi et cet exilé, hein, parce qu'il se met en peine pour lui et il est préoccupé par l'état de Néhémie. Et il dit, je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Remarquez qu'il ne dit pas Jérusalem, parce que justement, Esdras était parti à l'avance, il avait reconstruit le temple, mais plusieurs fois, le chantier avait été arrêté, et justement, c'était ce roi-là qui avait arrêté le chantier à Jérusalem. Donc, le roi, il ne se trompe jamais. Hein. Ce qu'il fait, c'est... Alors là, Néhémie, vous comprenez pourquoi il priait pendant 4 mois, pourquoi vraiment il a ce fardeau, et pourtant, il veut reconstruire les murailles de Jérusalem. Et alors comment dire à ce roi, il dit que tu sais le chantier là que tu as arrêté là, hein, que tu nous as empêché de faire, on voudrait le reprendre, est-ce qu'on peut le reprendre? Alors il dit pas le nom Jérusalem, il dit la ville où sont enterrés mes ancêtres. Alors avec ça, ça touche, hein, quand on dit c'est là où mes parents sont enterrés. Ah oui, bien sûr, oui, non, mais c'est sûr, c'est normal d'être triste. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que, et ce qu'on va voir, c'est que Néhémie, tout en priant, il est en train de réfléchir. Et c'est ça le chrétien. C'est pas de la prière, dit Dieu, écoute, moi je suis là, je suis dans mon lit, et je te demande de me trouver du travail, je te demande de faire ceci, cela, et puis c'est toi qui interviens et dis, bon, toi que tu bouges pas, moi je bouge pas. Néhémie, et vous allez voir, il a préparé comment il va parler, il est prêt à répondre, il est prêt, et puis vous allez voir par la suite qu'il aura tout le projet, et comment il va le réaliser, combien de temps ça prendra, il a fait tous les calculs. Il s'est renseigné sur qui étaient les gouverneurs en chemin, et qui pourrait être opposé, il a pensé à tout. Il prie à Dieu, mais en même temps, il est en train de réfléchir. il est en train de se renseigner, de mettre tout en place. Et vous voyez, c'est cet équilibre que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. C'est pas cette, on ne parle pas de foi aveugle, on parle de confiance en Dieu, et en même temps, Dieu ne récompense pas les paresseux. Hein, donc il travaille, et ce qu'on voit, c'est que là, Néhémie priait, et en même temps, je crois qu'il priait avec un crayon et du papier, et il avait fait tout son projet en place, et il prie et il attend l'occasion. L'occasion se crée là. C'était peut-être pas ce qu'il avait prévu, mais verset 4, il nous dit, le roi dit, il me dit, que demandes-tu ? Il dit, je priais les dieux des cieux. Bon, là, il n'a pas fait une prière de 45 minutes. Hein. Là, il a ses prières silencieuses qui montent rapidement. Mais parce qu'il avait eu une vie de prière, il pouvait faire une prière rapide. Et puis, il dit, et je répondis au roi. Et il dit, je veux rebâtir les murailles de la ville. Et il dit, en plus, il dit au verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Et plus au roi de laisser partir, et je vais fixer un temps. Vous voyez, là, il sait exactement comment répondre. C'était pas, il n'y avait pas un rendez-vous où il est arrivé avec tous ses dossiers. Il était prêt. Tout était dans son cœur. Et il dit au roi, voilà combien de temps ça prendra. Et il demande même des lettres pour, verset 8, une lettre pour Asaph, le garde des forêts, pour avoir du bois. Et il a tout prévu. Et il termine le verset 8 avec « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Il dit « Oui, j'ai fait mon travail, j'ai bien préparé mon dossier. » Je le présente, c'est le roi, il trouve que tout est bon, ça tient debout. Mais il dit, mais c'est Dieu, la bonne main du Seigneur était sur moi. Et c'est cet équilibre, cette confiance, cette tension qui doit exister dans notre marche de tous les jours. Et alors, il part. Et il ne perd pas son temps et il part. Et vous savez, on est là et tout démontre que le projet est bon, le projet c'est Dieu le veut. Il dit, la bonne main du Seigneur était sur moi, le roi est bien disposé, on a les lettres, les autorisations, on a le projet, on sait où on va, tout est bien et ficelé. Et puis on a l'approbation de Dieu, donc tout devrait aller sur des roulettes. C'est comme ça qu'on se dit souvent. On dit, si Dieu est pour, on ne devrait pas avoir de difficultés. Si vous lisez la suite, vous allez trouver que Néhémie a rencontré toutes sortes de problèmes. Et plus d'une fois, ça a failli ne pas passer. Et la question qu'on pourrait se poser, et c'est la question que je veux me poser ce matin pour vous, c'est pourquoi Néhémie a-t-il rencontré tant d'opposition alors qu'il se donnait un projet que Dieu voulait réaliser par lui ? Pourquoi tant de difficultés alors qu'il était en train de faire tout ça ? C'est pour Dieu ! Et si c'est ce récit-là, c'est pas seulement pour qu'on dise « Ah, bravo Néhémie, hein, t'es balèze, t'es fort, bravo. » Non, c'est pour notre instruction, c'est pour notre enseignement, c'est pour nous donner un modèle à suivre. Et donc, au chapitre 2, verset 11, il dit « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours, après quoi je me levais la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu avait mis sur mon cœur de faire pour Jérusalem. » Et alors, après 3 jours, il va prendre sa monture et puis il va faire un tour du chantier. Des ruines, hein, ce chantier, c'est des ruines qui sont là depuis 70 ans, Personne n'a touché, ça n'a pas bougé. La poussière, les... Il arrive même à un certain point où il ne pouvait plus avancer. Hein, au verset 15, il dit « Je montais de nuit par le torrent, je considérais la muraille, puis je rentrais par la porte du vallée. C'était... Je ne vois plus là maintenant. Ouais, au verset 14, « Je passais près de la porte de la source de l'étang du roi, et il n'y avait point de place pour où je puisse passer la bête qui est... puisse passer la bête qui était sous moi. » Et donc, il y a un moment, et les ruines étaient telles, on ne pouvait plus avancer. Il s'arrête, il rentre chez lui. Et jusque-là, eh bien, personne en ville ne sait pourquoi il est là. Il vient, il a des autorisations, il a des lettres, il est même accompagné, le roi avait donné des cavaliers, mais personne ne sait pourquoi il est là. Et alors, il les rassemble. Après les 3 jours, il les rassemble. Et il leur dit, donc au verset 17, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et il ne s'arrête pas là. Il aurait pu, si c'était un homme comme ça, qui avait confiance en lui-même, dit « Bon, voyez !» La ville qui représente notre patrie, notre héritage, nos ancêtres et tout ça, c'est une ruine. Alors, on va tous se mobiliser, on va commencer et au travail. Ce n'est pas sûr que ça aurait marché. Mais il dit au verset 18, « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Et c'est eux qui disent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'était un chantier impossible. Ils n'étaient pas très nombreux. Et puis, de monter une muraille autour d'une ville importante, ce n'était pas une petite tâche. Et très vite, l'opposition arrive. Verset 19. Sambalat, le Ronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'Achab, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Première chose, c'est la moquerie. Vous allez reconstruire ça? Mais vous voulez faire quoi? Et tout de suite, parce qu'eux voient d'un mauvais œil que Jérusalem soit reconstruit, c'était les Samaritains, beaucoup, là, Sambalat, c'était les Samaritains à côté, et ils ne voulaient pas que le bien de Jérusalem. Et donc, première opposition, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé, il y a juste le projet, tout de suite, arrivent les officiels dans l'entour pour se moquer d'eux, pour les décourager. Et, et ils vont engager une guerre psychologique. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont les autorisations du roi, donc ils ne peuvent pas le faire, venir avec une armée officiellement. Mais ils vont essayer de miner le moral du peuple pour les empêcher de reconstruire. Vous savez, si vous engagez, embarquez pour quelque chose pour le Seigneur, Comptez sur quelqu'un de venir pour dire non, mais tu te prends pour qui? Toi, tu vas faire ça? Et tout de suite, il y aura quelqu'un pour nous mépriser, pour nous... Déjà, je suis timide, déjà, je ne suis pas trop sûr de moi, des fois, déjà, je veux... Et puis après, il y a quelqu'un qui vient pour m'abaisser. Mais c'est garanti, ça viendra. Surtout quand on a des projets pour le Seigneur. Et quand on veut, dès que je prends une résolution, je veux suivre le Seigneur, il y aura quelqu'un pour dire quelque chose. Comptez dessus. Alors, au lieu de se décourager, prenez-le comme un signe d'encouragement. Ah ben voilà, les choses se passent normalement. L'opposition arrive, c'est que je suis sur la bonne route. Et regardez la réponse de Néhémie, il dit... Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Je ne compte pas sur vous, Il ne les insulte pas, il dit, non, mais nous, on compte sur le Seigneur. On verra. Il dit, nous, on compte sur le Seigneur. Et c'est donc le première chose, c'est cette accusation, vous voulez vous révolter. Et donc, quand quelqu'un nous accuse, la première réaction qu'on a envie de faire, c'est de se défendre. Mais non, c'est pas vrai. Et puis rentrer dans le débat et tout ça, puis finalement, on ne travaille pas. Néhémie ne répond pas. Vous faites l'accusation. Moi, je sais qu'il n'y a rien. J'ai le roi. Le roi m'a donné l'autorisation. Je compte sur le Seigneur. C'est lui qui a touché le cœur du roi. Moi, je vais de l'avant. Et ce n'est pas la peine de répondre à la moquerie et aux accusations. Et ensuite, on continue. Et donc, les choses avancent. Et on va sauter jusqu'au verset chapitre 4 maintenant. Parce que dans le chapitre 3, juste pour dire, c'est l'organisation du chantier. Et finalement, ce qu'il a fait, c'est à chaque famille, il a confié un pan de mur. Et toutes ces familles, chacun a eu son pan de mur. Et donc, toute la ville, tout le mur montait en même temps. Donc, c'est, vous lisez ça, vous voyez que ça commence à la porte des brebis, ça termine à la porte des brebis. Chacun avait son pan de mur, sa porte et tout ça, et il a structuré. Et bien sûr, quand vous voyez la famille à côté qui est en train de travailler, ben ça vous encourage à travailler, vous allez son travail. Si son mur il monte et le vôtre il monte bas, finalement il a fait. Vous savez, il a bien fait les choses. Il a encouragé, et donc le mur, le chantier a avancé. Mais on arrive au chapitre 4 et au verset 1, il y a encore ce Sambala. Il dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserez-vous faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils de la vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et alors il y a Tobija qui dit bien sûr, et il s'assure qu'il sera bien entendu, et il était à côté de lui, il dit « Qu'il bâtisse seulement, si un renard se lance, il renversera cette muraille. » La moquerie, il dit « Ils sont très conçus, mais c'est, ça va être du mauvais travail, n'importe quoi, même un renard, il va le renverser. » Et vous savez, il n'y a rien pour miner des gens qui sont fatigués, des gens qui sont en train de se donner à fond, et qui sont physiquement fatigués, et puis on commence à leur dire que le travail n'est pas bon. Et vous savez, c'est difficile. On peut dire, j'écoute pas, je fais pas attention. Mais c'est difficile de ne pas écouter, de ne pas entendre. Et ça travaille. Et puis surtout quand vous avez la tête sur l'oreiller, c'est là où ça vous travaille. Mais c'est cette lutte psychologique. Et c'est là où on arrive à ce combat où on dit, quelle parole est-ce que j'écoute? J'écoute les paroles du Seigneur, les promesses du Seigneur, ou j'écoute ce que disent les gens? Et donc, j'arrive au verset 6, il dit, ils sont moqués de lui, verset 4, voilà comment répond Néhémie, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur terre et leur tête, et livre-les au pillage sur une terre qu'ils soient captifs, ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Il dit, ce qu'ils ont parlé, c'est contre toi, c'est pas contre nous tellement, c'est contre toi. Et donc, c'est toi qui jugeras. Et il dit, nous ne jugeons pas nous-mêmes, Dieu jugera, c'est à lui la vengeance. Verset 6, nous rebâtîmes la muraille et fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Donc, malgré cela, le peuple est en train de travailler, le mur arrive à mi-hauteur de ce qui était prévu. Et alors, Sambala réapparaît au verset 7. Donc, chapitre 4, verset 7, Sambala et Tobija, et ils sont tous là. Et puis, ils constatent que les murs montent, les brèches se ferment. Alors là, verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Donc ils voient que ça monte et que leurs paroles, ça ne suffit pas. Donc ils vont venir faire des attaques surprises. Et, Et donc, ils vont essayer de venir. Le chantier est grand, hein, c'est toute une ville, il y a la muraille, donc la population est très éparpillée. Et donc, eux, leur projet, c'est de venir avec des petites troupes et venir attaquer d'un côté, puis attaquer de l'autre. Et puis, quand vous sentez que vous ne savez plus d'où vient l'ennemi, hein, c'est la force de la souris, hein, qui est sur vous, parce que vous ne savez pas où elle va apparaître, et ça vous fait bondir chaque fois. C'est pas que vous avez peur des souris, hein. Non, il y a personne qui a peur des souris, mais c'est parce qu'il arrive comme ça en surprise et ça vous fait bondir. Mais c'est un peu ce qu'ils vont utiliser, essayer de venir en surprise et quand on ne sait pas d'où ça va venir, on n'arrive pas à travailler correctement. Si je vous laisse lire ça plus tard, mais. Néhémie va organiser tout cela et il va dire à tout le monde au travail, puis il y aura un sentinelle qui surveille, et puis il y aura une trompette, et dès qu'il y a une attaque, tout le monde va se diriger vers le son de la trompette et ils pourront faire face. Et puis il nous dit même ici que 20 fois ils sont venus essayer de faire une surprise, mais chaque fois il y avait des gens qui les ont vus et qui ont averti. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, mais il y a toujours, vous savez, ça travaille, ça use quand même. Et ils ont dû travailler avec des armes à la main, avec une main, ils travaillaient avec la truelle et l'autre main à l'épée. Mais ils ont continué à travailler. Je vous rappelle encore la question, c'est, puisque c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu, pourquoi tant de problèmes, tant de difficultés? Pourquoi est-ce que c'est avec tant d'efforts? Pourquoi tant d'opposition? Est-ce que Dieu ne pouvait pas agir sur ces hommes-là qui les embêtaient et puis les éliminer ou les écarter ou quelque chose? Mais ils sont toujours là. Et on continue donc après au chapitre 6, parce que le chapitre 5, c'est un peu le... comment il organise, il règle un autre problème interne au peuple d'Israël. Mais au chapitre 6, on a la suite. Et alors, chapitre 6, verset 1, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, il le voit là encore, Tobija, Geshem, l'Arabe, et les autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. » Alors, là, il va changer de technique, l'ennemi. Alors Sanballat et Geshem envoyèrent dire, « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la ville, dans la vallée d'Ono. » Et il dit, « Écoute, on a l'impression que tu réussis tout ça. Écoute, viens, on va se rassembler, on va discuter ensemble. » Vous savez, quand on n'arrive pas à arrêter, alors on dit, « Viens, on va discuter. » Vous savez, le travail n'avance pas, hein, quand on discute. Surtout quand le chef du chantier n'est pas là. Et alors ils disent, viens, on va discuter ensemble, on va se rencontrer, on est amis, on va travailler ensemble et on s'entend. Oui, mais vous savez, Néhémie l'a senti, il est anguille sous roche. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Et en fait, la fin du verset 4 et de verset 2, il dit « Il avait médité de me faire du mal. » C'est-à-dire, eux, ils avaient voulu l'isoler. Et puis là, certainement qu'ils avaient voulu soit le prendre prisonnier ou autre chose. Et alors, je leur répondais « J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre, travailler. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Il dit « Je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Écoutez, je peux pas. Je continue à travailler. » Et c'est comme ça qu'il a répondu à cela. Hein, il n'avait pas, au lieu de commencer à faire des réunions, des séminaires, et puis on fait tout ça, et puis le travail ne se fait pas. Il dit non, je reste sur le chantier, on continue à travailler. Et alors, on va essayer autrement alors. Et on arrive au verset... Verset 6. Alors on voit le message et puis on dit, mais le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs vous pensez vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, les choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons ensemble. Alors là, on commence à lui coller des mauvaises intentions. On dit, écoute, là, il y a des rumeurs qui disent que toi, ceci, tu veux te faire roi, tu veux te révolter contre le roi, tout ça. Écoute, viens nous voir, on va discuter ça, on mettra tout, et on calmera les choses. Viens. Et il répond, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Il dit, je sais ce qu'il cherche. Il dit, fortifie-moi dans ce chantier, dans ce travail. Je reste avec ma mission. Et alors, on arrive au verset 10. Je me rendis chez Magia, fils de Delaja, fils de Mehetabel, qui s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. Alors là, il y a un qui se présente comme un prophète. Et il va dans le temple et dit, Néhémie, viens, parce que ils vont te tuer, viens, cache-toi ici. Et vous savez, n'importe quoi pour le neutraliser. Et d'abord, il n'était pas prêtre. Donc il n'avait rien à faire dans le temple. Donc il allait se mettre en porte-à-faux par rapport à la loi et par son peuple. Et deuxièmement, si tu t'enfermes comme ça, tu ne peux pas diriger un chantier dans une salle fermée. Et regardez verset 11, il répondit, « Un homme comme moi prendra la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ?» Je n'entrerai point. Et je reconnus, verset 12, que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Vous comprenez ? L'argent, ça travaille depuis longtemps. Hein ? Et, vous savez, on a essayé de venir du côté religieux. Puisqu'il est tellement... On va venir du côté de religion. On va envoyer un prophète. Et viens, cache-toi dans le temple. Quelqu'un qui croit en Dieu, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Mais Néhémie dit non. Dieu, je sais. C'est du faux. Alors, parce que verset 13 nous dit, en le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis, je commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Et sa réponse est, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Il dit, Dieu, moi je remets toute la situation, toutes ces oppositions, ce qu'ils font, je remets entre tes mains. Moi, fortifie-moi, je veux rester fidèle jusqu'au bout. Et on arrive au verset 15. Et là, c'est le beau verset. C'est celui qu'on cherche depuis tout à l'heure. Il dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Imaginez ça, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Avec le matériel qu'on a de nos jours, on ne pourrait pas le faire. 52 jours, ça prend plus que ça pour rassembler le matériel. Il dit, et lorsque nos ennemis, et le verset 16, voilà, vous avez la réponse à la question, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte et ils éprouvèrent une grande humiliation et ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Pourquoi toutes les oppositions pour les... Parce que si ça avait bien marché, sans problème, tout ça, on aurait dit Néhémie, c'est un super homme. Il arrive à mobiliser du monde et tout ça. Mais parce qu'il y avait eu toutes ces oppositions et tout cela et que le projet s'est réalisé quand même, eh bien, tout le monde, même les non-croyants, dit, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est très important de savoir. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme prenne la gloire. Hein? C'est toute la gloire est pour Dieu. Tous les projets de Dieu sont à sa gloire. et l'homme ne doit même pas rentrer là-dedans et essayer d'associer son nom à Dieu. Et méfiez-vous de tous ces mouvements qui portent des noms de personnes. Non, on reste attaché à ceux qui portent le nom de Jésus. Si le seul nom qui est prononcé et élevé, c'est le nom de Jésus, il y a des chances que ça soit bon. Mais si on commence à mentionner d'autres noms et faire courir d'autres, la réputation d'autres personnes qui s'associent, hein, qui, bien sûr, ils vont dire le nom de Jésus, mais est-ce que qui, Dieu dit, moi ? Alors, il a fait assez de positions. Et vous savez, des fois, et c'est là l'application pour nous, si nous sommes dans la volonté de Dieu, ne nous décourageons pas si nous rencontrons des difficultés. Parce que Dieu dit, je veux rendre ça très difficile pour que quand ça se réalise, tout le monde sache que c'est moi qui l'ai fait. Et il sera indiscutable que c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Et ça, c'est bon pour mes projets individuels. Les gens me regardent, disent, mais celui-là, il n'aurait jamais pu marcher avec le Seigneur. Mais ici, il y a tellement de trucs contre lui, et puis sa personnalité, son passé, tout ça. Mais il continue avec le Seigneur. Ça doit être Dieu, vraiment. Dieu l'aide. Que ce soit un projet d'église, eh bien, qu'il y ait des problèmes, c'est pas... Ce qu'on veut, c'est que les choses se passent de manière à ce qu'il soit indiscutable que c'est Dieu qui intervient. Et c'est lui qui fait l'œuvre. Et donc, la réponse à la question pourquoi Néhémie a rencontré tant de problèmes parce que, alors qu'il faisait le plan de Dieu, le projet de Dieu, eh bien, c'est pour que Dieu reçoive toute la gloire. Et que ça soit clair, non seulement pour les enfants d'Israël, mais pour tous les autres, que Dieu est avec eux. Et que Dieu voulait cela. Et donc, je relis ce verset 16. Il dit, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Finalement, eux qui voulaient détruire, ils n'ont fait que confirmer que c'était l'œuvre de Dieu. Et Dieu travaille dans cette manière-là. Donc, que le Seigneur nous encourage dans nos vies personnelles, nos projets personnels pour le Seigneur, ou en tant qu'Église, en tant que l'œuvre de Dieu en France, eh bien, que ce soit fait et que les choses se passent de manière à ce que tout le monde sache que c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, si nous avons dit « Dieu, pourquoi ?»« Pourquoi je comptais sur toi ?»« Pourquoi ces problèmes ?» Maintenant, on peut dire « Seigneur, pardonne-moi. J'ai confiance en toi. C'est toi qui me diriges, j'y vais. Et par ta grâce, j'arriverai. Et je veux que ce soit de manière à ce que tu reçoives toute la gloire, qu'on t'attribue toute la gloire pour le succès que nous pourrons avoir. Que le Seigneur nous aide et nous rappelle cela. Nous allons